Nous sommes en compagnie du metteur en scène et comédien Jacques Vincé, artiste associé au Théâtre du Nord depuis janvier 2012, et qui monte dans ce même théâtre « La vie est un rêve » de Calderon. Tout ici sonne juste. La pièce magistralement montée et interprétée laisse toute sa place au merveilleux texte de Calderon, qui nous oblige pour l'apprécier à une immersion qui nécessite un léger temps d'adaptation. Décor, scénographie, costumes et jeux des acteurs, tout concourt à nous plonger dans ce lointain XVIIe siècle espagnol que l'on appelle le siècle d'or, tout en ne perdant pas de vue le XXIe siècle. On y philosophe avec une extravagance toute baroque sur le grand théâtre du monde, en se demandant à chaque instant qui est l'homme, qui est la bête, et si le mot bonheur ne se confond pas avec le mot rêve. Les interrogations de Sigismond, le personnage principal, sur l'identité, l'éducation, l'enfermement, l'apprentissage du pouvoir, de l'amitié et de l'amour, sonnent à nos oreilles parfaitement contemporaines, malgré le côté archétypal des personnages qui évoluent dans une prison-palais, à moins que cela ne soit l'inverse. Captivé par les rebondissements de tous ordres et les émotions et réflexions que le texte fait naître, autant que par l'excellence des acteurs qui suspendent le spectateur à leur souffle, on ne voit pas passer le temps. Alors Jacques Vincé, pourquoi vous intéressez-vous aujourd'hui à cette pièce rarement montée ?
Mais je crois que vous en avez un petit peu, vous avez donné quelques raisons dans votre compte-rendu.
Mais ça, c'est les miennes.
Oui.
Il faut savoir les vôtres.
Alors, plus intimement, je pense que c'est une pièce qui recoupe des interrogations, des questions que j'essaie d'approfondir de spectacle en spectacle. Certaines d'entre elles peuvent se recouper avec le jour souterrain que j'ai présenté à l'Idéal l'année dernière. La thématique de l'enfermement, la thématique du monstrueux, la thématique du doute, de à quoi on peut croire, à quoi on doit croire, à quoi on veut croire. Donc il y a beaucoup d'éléments qui, dans cette pièce, me renvoient à des choses, moi, qui intimement m'intéressent. Et en même temps, c'est effectivement ancré dans une langue, dans un 17e espagnol, effectivement, qui à la fois nous est très lointain, dans sa forme, dans les conventions, même les conventions théâtrales. Mais cette distance, je trouve, justement, nous permet de nous infiltrer entre ce qui est dit et la manière dont c'est dit. Et puis, par ailleurs, c'est à la fois très lointain. Puis ce siècle d'or espagnol, c'était quand même une Espagne... Ça s'appelle le siècle d'or, mais c'était déjà la fin du siècle d'or. C'est une époque où ça doute, où ça s'inquiète, où on n'est plus très sûr. C'est la fin de la Renaissance. C'est un déclin économique. Les gens se demandent s'il y a vraiment bien quelqu'un là-haut dans ce ciel dont ils ont toujours été persuadés qu'il était peuplé. Là, tout d'un coup, il y a des fissures, des failles qui, là, pour le coup, trouvent beaucoup de passerelles avec notre Europe vieillissante, comme on dit. Et ça me semblait intéressant de monter ce texte qui est peu monté et qui, je trouve, a des résonances très spécifiques et particulières.
C'est vrai que je n'avais pas pensé au rapprochement entre les Trente Glorieuses et la fin du siècle d'or espagnol, mais finalement, oui,
mais
c'est Trente Glorieuses
effectivement...
où il y avait, c'était l'apogée, en tout cas, sinon d'un empire, du moins d'une civilisation et d'une société.
Oui, et l'ère baroque, ce qu'on a appelé le baroque, c'était vraiment un courant qui cherchait la vérité dans les plis, qui cherchait du sens en dehors de... dans une profusion d'images aussi, d'ailleurs, c'est l'époque où on a beaucoup, beaucoup peint, représenté, à chaque fois en essayant de saisir qu'est-ce qui était réel et qu'est-ce qui ne l'était pas.
Cette pièce a une place importante dans le paysage du théâtre espagnol parce qu'elle est quand même de 1636, c'est quand même tard.
Oui, ouais, ouais, il y avait déjà... c'est dans le siècle d'or espagnol, niveau théâtre, ça a été des gens qu'on connaît bien, comme Cervantes, qu'on connaît pour Don Quichotte, mais qui a écrit aussi beaucoup de pièces de théâtre, Le siège de Numance, que j'avais joué au Festival d'Avignon il y a quelques années. Lope de Vega, Tirso de Molina, qui sont aussi des fondateurs de notre théâtre actuel, parce que Tirso de Molina a écrit une pièce qui a donné la matière à Molière pour écrire son Don Juan, par exemple. On trouve là des ferments de tout ce que l'époque classique française a retravaillé et a, pour nous, dans notre culture française, fait exploser.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un chef-d'œuvre ?
C'est toujours difficile de définir un chef-d'œuvre ou en tout cas d'être péremptoire par rapport à ça. Moi, il y a une définition que j'aime bien de ça, de chef-d'œuvre. C'est une définition qui a été donnée par un metteur en scène qui s'appelle Antoine Vitez, qui est mort maintenant il y a quelques années, et qui disait « La qualité des chefs-d'œuvre, c'est de perpétuellement faire énigme. » Et c'est une pièce qui, comme je le disais tout à l'heure, continue de poser des questions auxquelles on ne peut pas complètement répondre. Et c'est dans mes choix de textes, je me rends compte que c'est toujours ça qui m'intéresse. C'est de rassembler une équipe de comédiens, de collaborateurs artistiques, avec lesquels on va pouvoir creuser, approfondir, non pas pour répondre, mais pour envoyer ces questions-là de la manière la plus aiguë possible aux spectateurs et que chacun puisse s'en emparer.
Alors si le texte nous paraît si étrange, c'est peut-être aussi parce qu'il y avait l'Inquisition et que du coup ça obligeait à utiliser perpétuellement la métaphore.
Oui, alors c'est là, ça aussi c'est passionnant et évidemment c'est une question qui dans le travail nous est souvent revenue, c'est-à-dire que c'est vrai que Calderón était nécessairement dans une orthodoxie parce que effectivement c'était impitoyable. Si on en sortait, c'était l'Inquisition qui nous tombait dessus. Et puis il a été un des auteurs officiels de Philippe IV, donc il était à la cour. Mais c'est un homme qui a eu un parcours, qui a eu une formation chez les jésuites, et puis qui a été ensuite, qui s'est engagé dans l'armée, et puis ensuite qui, à la fin de sa vie, s'est fait ordonner prêtre. Donc il y a évidemment un itinéraire spirituel, mais son itinéraire spirituel est appuyé, ancré, nourri d'un doute permanent qui fait que, par exemple, cette pièce, La vie est un rêve, on passe de l'état de nature à quelqu'un qui va se hisser vers la lumière en passant par tous les errements de la vie, des pulsions déchaînées. Et dans ces pièces, même si effectivement il donne une issue qui peut rentrer dans le cadre d'une orthodoxie de l'époque et évidemment peut avoir des résonances religieuses et spirituelles, néanmoins, on peut sans cesse se dire que dans cette résolution, il y a énormément de choses qui peuvent la contredire, qui maintenant, je pense que l'issue de la pièce, en tout cas moi, c'est ce qui m'intéresse dans cette pièce, c'est que ça n'est pas nécessairement religieux ou spirituel. C'est une quête de quelqu'un qui essaye de sortir, de traverser les épreuves et d'en sortir grandi et qui, je donne toujours cette image, pour moi c'est un homme qui monte des escaliers dans une tour, qui monte à n'en plus finir et qui, tout en haut de la tour, ouvre une fenêtre. Donc il y a la lumière, mais il y a le vide tout en bas et on ne sait pas s'il va s'envoler ou s'il va tomber dès que la lumière va s'éteindre dans la salle.
C'est la chute d'Icare en haut de la tour de Babel, donc.
Ça pourrait être ça.
Et d'ailleurs, vous ne l'avez pas monté comme une pièce religieuse. On sent vraiment les interrogations philosophiques de l'homme tout court sur la Terre.
Qui peuvent inclure d'ailleurs les interrogations religieuses, mais oui. Qui ne sont pas nécessairement et exclusivement religieuses. Ouais.
Et d'ailleurs, moi j'ai eu presque le sentiment que le vrai sujet de la pièce, c'était la passion.
Mais oui, c'est la passion, la pulsion, la raison. La chronique de François Hyde, c'est vrai, m'intéressait, me faisait sourire et réagir et rebondir. Un peu d'ailleurs comme la dernière fois que je suis venu ici pour Jour Souterrain, où c'était une chronique sur le ski et la glisse, ouais, je me rappelle bien. La question des sportifs dont on peut dire tellement ils sont exceptionnels qu'ils sont des bêtes. Ce personnage, alors pour d'autres raisons et des raisons pas sportives du tout, mais qui est enfermé par son père dans une tour, dans une prison, donc qui est réduit à l'état à la fois de nature et en même temps c'est un exclu, c'est un banni, c'est un qui est conscient de cette injustice profonde et qui donc n'est que pulsion, qui n'est que passion et qui, par un subterfuge de son père, une expérience que son père va tenter de le mettre brutalement de cette tour dans le palais comme s'il était effectivement le prince pour le tester, et inévitablement ça va se passer mal puisque cet animal va évidemment réagir aussi comme un enfant dans un magasin de jouets à Noël, c'est-à-dire qu'il va vouloir jouer avec tout, il va tout casser et évidemment on va le remettre dans sa tour. Mais donc il y a cet état de bête et c'est des consciences successives, c'est-à-dire que petit à petit il prend conscience qu'il est un composé de bête et d'homme, et puis petit à petit la raison va, la conscience, la lucidité, le fait de surmonter l'incertitude du doute va le faire décider de, dans l'incertitude, agir, essayer, risquer. Donc aussi une part de responsabilité de dire, voilà, je ne suis sûr de rien, mais dans cette incertitude, je fonce, j'essaye, je grimpe, j'essaye de m'élever.
un pari en quelque sorte. Mais en même temps, cette pièce, c'est une véritable tragédie, et il y a des moments très cruels, très forts. Et ça, je ne m'attendais pas à... Alors, ce qui est très drôle, c'est que la vie est un rêve. On se dit, tiens, on voit ça sur l'affiche. Si on n'est pas prévenu, on ne s'attend pas à ces moments extrêmement noirs.
Oui. Bah oui, bah on sait bien que la vie est un rêve. La vie est un rêve.
Sauf quand elle ne l'est pas.
C'est ce que dit le roi, et c'est un piège de dire ça. D'ailleurs, Federico Garcia Lorca, le poète espagnol, reprenait ce titre de Calderón, qui est... Cette pièce est vraiment une pièce emblématique en Espagne, c'est l'équivalent d'une note Don Juan, où c'est vraiment la pièce. Et il disait, la vie n'est pas un rêve, alerte, alerte, alerte. Et politiquement, c'est très important aussi de se dire qu'il faut déjouer cette chose à laquelle on veut nous faire croire parfois que tout est beau et tout est rose. Oui, évidemment, c'est une tragédie. En même temps, je parlais tout à l'heure de la richesse et du foisonnement que Calderón met dans son écriture. Il y a en l'occurrence un personnage qui est le personnage de Clairon, qui est le valet comique en fait, qui a vraiment une place, une fonction dans la pièce, qui revient très régulièrement et qui très régulièrement remet au niveau de la pensée, au niveau de la manière d'envisager la vie, les choses à un niveau très concret, qui est qu'on peut se poser toutes les questions qu'on veut, mais il n'en reste pas moins que tous les jours il faut manger, il faut boire, il faut jouir, et que c'est le seul d'ailleurs qui meurt dans la pièce, c'est lui qui a une fin tragique, mais qui tout le temps de la pièce a donné le contrepoint aussi de cette vision tragique. Lui, il a une vision réaliste, pragmatique, avec les limites que ça a, mais aussi avec toute la beauté que ça a, et qui sont... auxquels nous tous nous sommes aussi confrontés, à se dire, est-ce qu'il faut viser très haut, très loin et de manière très incertaine, ou au contraire jouir de chaque instant?
C'est un vrai questionnement philosophique là, pour le coup. Moi j'ai envie de revenir quand même à cette histoire d'enfermement, vous l'avez souligné avec Jour souterrain. Alors il y a quelques mois on était dans la cave, maintenant on est dans la tour. C'est quand même, c'est pas anodin, j'imagine, cet intérêt pour les lieux clos. Et pour... parce que quand il y a... Qui dit enfermement, on dit quelqu'un d'autre, de l'extérieur, qui a obligé un être humain à une situation donnée. Et j'aimerais savoir pourquoi ça vous intéresse tant.
Je crois que dans ces situations-là, extrêmes, on est obligé de... On est repoussé dans des confins de notre humanité qui oblige d'une part à... Enfin, après, on est dans les questions de survie, donc il y a nécessairement des forces qui se développent, des résistances de notre humanité insoupçonnables dans des conditions qui seraient, entre guillemets, plus normales et qu'évidemment on souhaite. Mais effectivement, la question de la... Là, la pièce, en plus, c'est une double, parce qu'il y a ce jeune homme enfermé dans la tour, et il y a cette jeune fille aussi qui arrive dans cette Pologne imaginaire, qui a perdu son honneur. Alors, c'est allégoriquement, c'est vrai que c'est... Elle a perdu l'essentiel de ce qui fait sa vie, elle a perdu sa raison d'être, donc elle arrive pour se venger. Elle est aussi dans une position d'exclu, d'indigné. Et c'est, voilà, cette indignation, vous en parlerez certainement aussi dans votre angle, mais
oui, pour
par rapport
aider Sabéran, oui.
À cette pièce, il y a quelque chose qui me semble important. Alors c'est vrai que c'est lié là à une situation théâtrale, mais on essaye derrière le théâtre de toucher à des choses qui sont de la vie et qui sont des choses qui nous concernent, encore une fois, intimement, différemment, mais...
Oui, et quand l'homme est poussé dans ses retranchements, finalement, c'est là qu'il est le plus vrai. Donc c'est là où c'est le plus intéressant.
Il y a un noyau dur, oui, où au fond, on ne peut pas tricher. Donc c'est ça, c'est cette espèce de diamant qu'il y a tout au fond, qu'il faut parfois... il faut aller le chercher, il faut piocher, et puis à partir de là, en faire... jaillir les éclats qui, encore une fois, prennent des formes différentes.
Oui, que certains trouvent dans la violence et la guerre, par exemple. La guerre fait naître ce type de situation quand on lit certains...
On sait bien, oui, que L'Iliade d'Homère, c'est une épopée guerrière qui a fait rêver tout le monde, et on sait que, d'une certaine manière, je vais dire une chose absolument pas politiquement correcte, mais que la guerre est plus rassemble plus et plus facile à vivre entre guillemets que la paix. On sait contre quoi on se bat, c'est parfois plus difficile quand l'ennemi est plus diffus.
Bon, eh bien voilà, une magnifique conclusion. Je pense que François Haïd, dans une prochaine chronique...
Je ne sais pas s'il faut conclure là-dessus.
Va en tout cas reprendre la balle au bon, parce que on pourrait conclure sur le choix des acteurs, quelque chose d'un peu plus léger.
Oui, oui, parce que cette pièce repose beaucoup... Je parlais tout à l'heure du fait que c'est presque une langue étrangère quand on la lit la première fois, c'est-à-dire que c'est évidemment une langue traduite. Heureusement qu'elle est traduite, parce que la traduction permet de la rapprocher de notre langue maintenant, mais il n'en reste pas moins que même dans la forme, le conceptisme par exemple, qui est ce style de l'époque, qui fait que mieux on parle, plus le sentiment et l'émotion est grande. Bon, c'est des choses qui nous sont plus... C'est une forme de pensée qu'il faut arriver à acquérir, et sur laquelle on a travaillé avec ces acteurs qui sont très différents, parce que de génération très différente, entre des tout jeunes acteurs qui sortent de l'école et un acteur qui a travaillé avec des grands metteurs en scène et qui a 70 ans et qui a toute une histoire de théâtre avec lui. Et voilà, on s'est rassemblés dans cette matière de Calderón, et chacun, je crois, arrive à la fois, en tout cas c'est notre enjeu, à faire résonner la pièce dans son archaïsme, et en même temps, à l'autre extrême, il y a leur sensibilité de chacun qui, et c'est dans cet interstice entre leur sensibilité propre et cet archaïsme de Calderón qu'on tisse quelque chose qui, j'espère, intéresse et peut toucher les spectateurs.
Bon, en tout cas, je témoigne, ça fonctionne bien. En tout cas, ça a bien fonctionné pour moi. Je pense aussi pour le maximum de spectateurs. Jacques Vincey, merci. Donc, je rappelle, La vie est un rêve se joue jusqu'au 1er décembre 2012 au Théâtre du Nord à Lille, dans la grande salle. Et un téléphone pour se renseigner, 03 20 14 24 24.